Alors, je pense que quelqu'un a pris mon message, donc je vais juste chercher ça.
Ah non, c'est bon, c'est bon.
Il y a beaucoup de bazar ici. Ouf. Voilà. Alors, Andy, on vit une époque importante aujourd'hui parce qu'on est sur le point de vivre une nouvelle révolution technologique. L'intelligence artificielle prend son essor. Les algorithmes numériques gouvernent nos vies, apparemment. Et la technologie va même transformer l'humain. Le transhumanisme est à la porte. Apparemment, on va être amélioré par la technologie, implanté dans nos corps, peut-être implanté dans nos cerveaux. Tout ça est à la fois fascinant et effrayant. Quel sera l'avenir des humains ? Quelle sera la limite de nos possibilités ? Est-ce qu'on peut être optimiste ? Plutôt pessimiste. Alors, je ne prétends pas répondre à toutes ces questions-là ce matin ou aborder ce thème en détail de manière éthique, mais je pense que ce passage va nous donner quand même une perspective qui va nous aider à vivre en tant que croyants aujourd'hui. Et donc, je vous invite à lire à partir du verset 1 du chapitre 5 de la Genèse, et c'est à la page 5 dans les Bibles blanches. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image. Il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Enoch. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Enoch. Il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. À l'âge de 90 ans, Enoch eut pour fils Kénan. Enoch vécut 815 ans après la naissance de Kénan. Il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut. À l'âge de 70 ans, Kénan eut pour fils Mahalaleel. Kénan vécut 840 ans après la naissance de Mahalaleel. Il eut des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Mahalaleel eut pour fils Jéred. Mahalaleel vécut 830 ans après la naissance de Jéred. Il eut des fils et des filles. Mahalaleel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. À l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Enoch. Jéred vécut 800 ans après la naissance d'Enoch et eut des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Methuselah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Methuselah et eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. À l'âge de 187 ans, Methuselah eut pour fils Lémech. Methuselah vécut 782 ans après la naissance de Lémech. Il eut des fils et des filles. Methuselah vécut en tout 969 ans, puis il mourut. À l'âge de 182 ans, Lémech eut un fils. Il appela Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. » Lémech vécut 595 ans après la naissance de Noé. Il eut des fils et des filles. Lémech vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japheth. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. » Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On va arrêter notre lecture là et reprendre, Dieu voulant, la semaine prochaine. Alors, au chapitre 5, on commence avec une généalogie, une liste de générations de noms. Et cette généalogie sera entrecoupée par le récit du déluge. Et la généalogie sera reprise à la fin du chapitre 9. Et ces généalogies dans le livre de la Genèse nous conduisent vers le père fondateur de la nation d'Israël, en quelque sorte Abraham, et ensuite vers Isaac et Jacob, et bien sûr d'une manière ultime vers Jésus-Christ lui-même. Donc ces généalogies ont une place très importante dans ce livre, primordiale même. Mais j'avoue que ce n'est pas toujours facile de lire, d'étudier ces généalogies, parce que parfois, en les lisant, on a un peu de mal, on a tendance à penser qu'elles sont un peu ennuyeuses. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Les généalogies peuvent être très intéressantes. Mon père s'intéresse beaucoup à notre généalogie, à notre arbre généalogique. Il fait des recherches et dans ses documents, il aime constituer des listes avec des noms, des générations, mais aussi, il aime bien écrire des petits récits concernant ces personnes. Il peut remonter jusqu'à 11 générations avec un certain Will William Harris ou d'une manière un peu plus sûre à 10 générations. Avec un certain James Harris. Et dans le récit, avec ses noms, mon père, il aime digresser aussi, il aime bien écrire des petits commentaires, des récits. Et j'ai trouvé hier, en cherchant un peu, toute une section sur la vie d'un petit cousin qui a combattu les Français dans les guerres napoléoniennes. Mais ne vous inquiétez pas, il y avait aussi un autre, donc un oncle, donc en arrière, donc l'oncle de mon père, Albert Harris, qui a servi comme cuisinier pour l'armée française. Il était anglais, mais en fait, il était dans un régiment écossais qui est donc muté pour servir, en fait, être cuisinier pour les officiers français pendant la Grande Guerre. Ça, c'est inquiétant, peut-être. C'est ça. Je ne sais pas si les officiers français ont survécu sa cuisine, mais... mais en tout cas, les généalogies peuvent être très intéressantes. Mais fort heureusement, on ne va pas nous intéresser à la mienne ce matin, mais à celle d'Adam, donc à la descendance d'Adam, et en particulier aux ancêtres de Noé. Et par Noé, ceux d'Abraham, et par d'Abraham, ceux aussi de Jésus. Et la première chose que j'aimerais qu'on voit dans cette généalogie, c'est les conséquences tragiques du péché. Ça, c'est la première chose qu'on va voir ce matin. Soyons attristés par les conséquences du péché. Parce qu'il y a un refrain qui revient sans cesse dans cette généalogie, qui pour nous est tristement banal. On lit la généalogie et on n'y pense même pas. Et c'est la phrase « Puis il mourut ». Verset 5, verset 8, verset 11, verset 14 et ainsi de suite. Et c'est un refrain qui était absent dans la généalogie qu'on a vue la semaine dernière, la généalogie de Caïn. Moïse n'avait pas dit ça pour chaque génération. Mais ici, c'est comme s'il martèle le point. Il dit ce qui est évident, mais il le martèle. On a affaire ici, dans cette généalogie, à la descendance d'Adam et Ève par le troisième fils, Seth. Celle qui, comme on l'a vu la semaine dernière, a commencé à évoquer le nom de l'Éternel. C'est ce qu'on a vu dans le dernier verset du passage de la semaine dernière. Donc on parle ici d'une ligne pieuse, d'une ligne qui adorait le Dieu de l'Alliance. Comme on a dit à plusieurs reprises, on est ici maintenant dans la Genèse, à la recherche, depuis Genèse 3:15, à la recherche d'un fils, Adam et Ève, qui sera capable d'écraser la tête du serpent. C'est ce que Dieu a promis. Il va donner ce fils qui va écraser la tête du serpent, le diable, et défaire les conséquences de la chute, de la malédiction de Dieu. Restaurer la communion avec l'homme. Et la naissance d'un fils est source de bonheur, mais aussi d'espoir. Et on a, dans cette généalogie, la naissance de fils, dans cette ligne pieuse. On est à la recherche d'un fils pieux qui peut restaurer notre relation avec Dieu. Mais, à chaque fois, malheureusement, cette petite phrase revient. Et cette petite phrase anéantit notre espoir. Puis il mourut. Puis il mourut. Puis il mourut. C'est peut-être tristement banal pour nous. Et parfois l'annonce dans les médias de centaines ou 200 morts dans un accident tragique ailleurs, bon, on n'y pense même pas. Ah oui, voilà. On regarde des films. Il y a des séries télévisées. Il y a des jeux vidéo qu'on regarde. Il y a des morts tout le temps. Et on n'y pense même pas. C'est normal, on est comme anesthésié. Pire, c'est même une sorte de divertissement. Mais cette petite phrase lui rappelle à chaque génération que c'est une tragédie. Une tragédie. Ça veut dire aussi que Dieu n'a pas menti au début de la création quand il a dit que l'homme mourrait s'il était désobéissant. En écoutant le serpent, en cédant à cette tentation, Adam et Ève ont cru un mensonge. Loin d'acquérir une vie meilleure, ils se sont assurés une mort certaine. Et c'est tragique. C'est le plus souvent le décès d'un proche, d'un membre de la famille ou d'un ami, un frère ou une sœur en Christ, qui nous rappelle que oui, la mort est véritablement une tragédie, quelque chose qui ne devrait pas être là. Ça ne devrait pas être là dans cette généalogie. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Oui, on lutte contre la mort avec la médecine, avec la technologie. Et il faut, mais il ne faut pas qu'on soit naïf. La solution ultime ne sera jamais la médecine ou la technologie. Parce que comme on a vu, c'est la sentence de Dieu, la mort. Mais la présence de la mort à cette époque-là, et comme on va voir dans les semaines qui viennent, même après le déluge, la présence de la mort aujourd'hui, même après la résurrection de Jésus-Christ, est un rappel qu'on vit toujours sous cette malédiction, avec les conséquences tragiques de notre péché. Nous, nos enfants, nous faisons partie de cette humanité sous la malédiction de Dieu. Et ce petit refrain nous rappelle, il ne faut pas qu'on banalise cette tragédie, il faut qu'on soit choqué. Cette mort ne devrait pas être là, on devrait pleurer ça. Alors, avant de revenir à cette généalogie, j'aimerais qu'on avance un peu plus dans le texte et qu'on aborde un peu le chapitre 6. Et je pense qu'en lisant ces versets-là, Moïse veut qu'on ne soit pas blasé, qu'on soit choqué même à la profondeur et à la gravité du péché. C'est notre deuxième point ce matin. Ne soyons pas blasés devant l'ampleur du péché. Alors, ce début du chapitre 6 n'est pas facile à comprendre. Même si, peut-être de manière globale, c'est assez clair. Dans ce passage, dans ces versets au chapitre 6, Moïse parle de fils de Dieu. Il parle aussi de son esprit, l'esprit de Dieu sans doute. L'âge de l'homme. Il parle aussi de géant, ou peut-être c'est mieux de garder ça dans l'hébreu Néphilim, selon les traductions. Comment y voir clair? De quoi est-ce qu'il parle? Alors, lorsqu'on aborde n'importe quel passage, pour y voir clair, on doit bien comprendre le contexte et aussi interpréter ce qui est moins clair par ce qui est déjà clair. Et le verset 5 nous donne la conclusion de cette petite section. C'est vers là que Moïse veut en venir. Verset 5, « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. » Donc globalement, ce passage difficile nous parle de ce mal, notre mal, qui régnait sur la terre il y a bien des années. Donc qu'est-ce qui se passait avec ces fils de Dieu, aussi ces Néphilim? Alors il y a plusieurs interprétations proposées par les experts. Les fils de Dieu sont peut-être des êtres angéliques, soit des hommes pieux dans la lignée de Seth, soit des grands hommes, des rois de l'époque. Pas simple de savoir exactement où, comment trancher. Qu'est-ce qui faisait ces fils de Dieu? Le verset 2 a deux verbes, voir et prendre. Il voyait la beauté des filles, il les prenait en mariage. Peut-être il y a là une sorte de clin d'œil vers le chapitre qui nous rappelle le chapitre 3, avec le fait que Ève a vu le fruit et elle l'a pris. En tout cas, peut-être quelque chose, si on fait ce rapprochement-là, ça nous montre que quelque chose qui ressemble à Genèse 3 est en train de se passer. C'est comme s'il y a une tentative de franchir les limites, les bornes que Dieu a établies. Peut-être une tentative de vivre éternellement en mélangeant ce qui est angélique ou démoniaque avec l'humain. Difficile d'être certain. Mais ce qui semble sûr, c'est que Dieu y répond en mettant son holà. L'homme ne vivra plus aussi longtemps qu'avant. Sa vie sera limitée à l'âge de 120 ans, ou peut-être ces 120 ans se réfèrent au temps entre l'annonce du jugement à venir et le déluge, le jugement, l'un des deux. Mais en tout cas, ce qui est très clair dans ce passage, c'est le bilan que Dieu fait de l'humanité. Le verset 5 sert de miroir. On voit ce qui est dans nos cœurs. Verset 5 sert d'IRM en quelque sorte, qui dévoile ce qui est dans nos cœurs. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Ou d'autres traductions disent, par exemple, pour sa deuxième partie, leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Donc c'est un verdict très fort et sans appel. Le péché, cette rébellion contre Dieu dont nous étions les témoins au chapitre 3, dont les conséquences humaines au chapitre 4 étaient funestes. Cette rébellion a envahi le cœur de l'homme. Et on voit que le péché de l'homme est très étroitement lié à sa pensée. Le cœur et la pensée vont vraiment de pair dans la pensée hébraïque. Et on voit que l'étendue de ce péché est véritablement vaste. Il imprègne tout notre être. Le passage parle de chacune de nos pensées. Les théologiens parlent de la dépravation totale. Dans le jardin d'Éden, le malin, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ciblé les pensées et le cœur d'Adam et Ève. Il leur a proposé une pensée mensongère. Il les a invités à croire un mensonge au sujet de Dieu. Ce qui était proposé, on l'a vu, était de l'ordre de la folie. Comment est-ce que l'homme a pu croire cela? Et c'est parce qu'il s'est enflé d'un désir idolâtre. Dans ce mensonge, le diable proposait à l'homme d'être à la place de Dieu, d'être aussi élevé que Dieu. Et l'homme a cédé à cette tentation irraisonnable. Il a désobéi. Le prophète Jérémie nous dit « Le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable ». Qui peut le connaître? Le péché a envahi notre cœur. Il contrôle notre cœur. Et c'est une réalité qu'on ne connaît que trop bien. Jésus-Christ a dit, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Ça commence dans le cœur, dans la pensée. Et Moïse, qui a écrit ce passage, nous invite à ne pas sous-estimer l'étendue du péché dans nos cœurs. La société nous dira que, malgré les preuves évidentes du contraire, que l'homme a un cœur bon, un bon cœur. Fondamentalement, il est bon, il n'est pas mauvais. Mais ici, on voit que ce n'est pas le cas. Alors ça ne veut pas dire que l'homme est aussi mauvais que possible, que chaque être humain est aussi mauvais que possible, non. Heureusement, Dieu nous permet de faire le bien aussi. On n'est pas livré à 100% au mal. Et le mal imprègne quand même chacune de nos pensées, d'une manière ou d'une autre. Et même pour le chrétien qui a reçu la chirurgie du Saint-Esprit, il a un nouveau cœur. Et ce travail spirituel n'est pas à son terme. Nos cœurs aussi sont enclins à être tortueux. Le miroir ou le scanner révèle ce qui est dans le cœur de l'homme, mais aussi ce qui est dans le cœur de Dieu. Le verset 6 nous montre à la fois le cœur de Dieu et la gravité de notre péché. Verset 6 du chapitre 6. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Dans d'autres versions françaises, on lit que le Seigneur s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Comment est-ce qu'un Dieu souverain peut regretter quelque chose? Comment est-ce qu'un Dieu saint peut se repentir? Manifestement, il parle d'une manière imagée à la manière des humains. Dieu sait tout, il est omniscient. Il savait ce que l'homme allait devenir. Pourtant, sa connaissance souveraine n'enlève rien de ce profond sentiment de peine, d'affliction, de regret. Le cœur de Dieu est peiné, affligé, à cause de tout ce mal qui a envahi nos cœurs. Il n'est pas indifférent à tout ce mal, cette injustice qui est commise dans le monde. Le fait que le cœur de Dieu est peiné, affligé, profondément touché par le mal, nous montre l'horreur, la gravité de notre péché. Nous, pour mieux nous disculper en quelque sorte, on a tendance, je pense que c'est vrai pour chacun de nous, on a tendance à minimiser un peu notre péché. Oh, c'était qu'une bêtise. Je n'aurais pas dû faire ça. Je me suis montré faible. C'était une caprice. Bon, on a tous nos faiblesses, n'est-ce pas? Oh, le péché n'est pas si grave. L'essentiel, c'est de faire des progrès. Oh, c'est la vie. Personne n'est parfait après tout. Dieu me pardonnera, c'est son métier. Mais ici, on voit que le cœur de Dieu en est affligé, peiné. C'est très fort. Ce mal l'indigne. Tout comme nous, on est indigné quand quelqu'un fait du mal à nos amis ou à quelqu'un qu'on aime. Ça peine. Le cœur de Dieu est peiné. Si bien que verset 7, on a la réponse de Dieu, une réponse juste. L'Éternel Dieu dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Ne soyons pas blasés devant l'ampleur du mal. Moïse a rédigé ce passage pour les Israélites sur le point d'entrer dans la terre promise. Il y a ici un avertissement solennel pour eux. Voici le cœur de l'homme. Voici le cœur de Dieu. Voici comment Dieu doit agir en cas de désobéissance dans la loi que tu as donnée à ce peuple par Moïse. En cas de désobéissance, tu as prévu l'exil, le fait d'être chassé de la terre promise. Ça ressemble en quelque sorte à ce premier jugement, le déluge. Et pour nous plus tard, Jésus l'évoque aussi, le jugement dernier qui vient. Voici l'homme, voici son cœur, voici le cœur de Dieu, voici un avertissement solennel. Comment vivre à la lumière de ça? Comment est-ce que le peuple de Dieu devait vivre à la lumière de cet avertissement solennel? Nous sommes donc à notre troisième, dernière section pour ce matin. Qu'est-ce que Moïse, qu'est-ce que Dieu voulait dire au peuple? Marchez humblement devant votre Dieu. Marchons humblement devant notre Dieu, c'est notre troisième section pour ce matin. Parce que ce passage n'est pas dénué d'espoir, parce qu'on y rencontre un Dieu de miséricorde. On va revenir à la généalogie d'abord. Parce que tout de suite, on voit des naissances. C'est déjà un signe de la grâce de Dieu. Il y a des lueurs d'espoir. Alors, en général, dans cette généalogie, pour chaque génération, il y a un autre qui est suivi, un modèle. On a le nom du fils et son âge, l'âge de l'homme à la naissance de son propre fils, ensuite la durée de sa vie après la naissance de ce fils, et ensuite la phrase « puis il mourut ». Donc on a un modèle pour chaque... un modèle qui se répète. Alors soit dit en passant, les généalogies comme celle-ci ne suivent pas forcément les techniques modernes des arbres généalogiques. Elles reflètent beaucoup plus la culture de l'époque. Il peut y avoir... un peu caché entre les générations montrées ici, d'autres générations. Tout est travaillé de manière littéraire. Et pour ce qui est des chiffres, la longévité de ces personnes de l'Antiquité, c'est vrai que beaucoup d'encre a coulé. Il y en a qui pensent qu'il y a un peu de symbolisme, des calculs pour répondre à la culture de l'époque. Et d'autres pensent que non, on doit les prendre de manière littérale. Les avis sont partagés. Et tout comme mon père aime ajouter des commentaires, des récits dans notre arbre généalogique, il convient de noter les surprises. En fait, ce qui sort du modèle qui se répète, ce qui est différent du modèle. Voyons d'abord ce qui est dit au sujet d'Enoch, versets 21 à 24. Ça ne suit pas tout à fait le modèle que Moïse a créé. Verset 21. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Methuselah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Methuselah. Il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Qu'est-ce qui caractérise Enoch? Alors, il est la septième génération dans cette généalogie. Tout comme Lémec, on l'a vu la semaine dernière au chapitre 4, était la septième dans la généalogie de Caïn. Lémec, on l'a vu, était caractérisé par la violence, les meurtres, l'arrogance. Mais ici, ce qui caractérise la septième génération, suivant la lignée de Seth, c'est une relation personnelle avec Dieu. Il marcha avec Dieu. C'est ce qui est mis en avant par Moïse. En sortant du modèle, il met en avant le fait que Enoch a marché avec Dieu. C'est un verbe, marcher, qui sera repris pour Noé aussi. D'une certaine manière, Abraham va aussi marcher avec Dieu. Et c'est aussi ce que Dieu faisait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le soir, ils marchaient dans le jardin. Et c'est un verbe qui nous parle de l'intimité, de la communion avec Dieu. Ça nous fait penser peut-être aux deux disciples qui marchaient avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Adam et Ève ont été chassés du jardin, mais cette communion est quand même possible. Moïse parle à ceux à qui Dieu a donné la loi au mont Sinaï. Il a placé devant eux un choix, la vie et la mort, la désobéissance et l'obéissance. Mais en même temps, et on le voit dans ce passage, fondamentalement, il nous invite à avoir cette relation personnelle avec Dieu, vivre cette humble dépendance de Dieu, cette relation d'adoration, de confiance. Les Israélites étaient appelés à obéir à la loi, certes, mais Moïse leur rappelle qu'il faut aussi cette humble dépendance de Dieu, cette intimité, cette adoration. C'est ça ce qui prime, en quelque sorte. Et Abraham, on va le voir, sera un exemple primordial. Et d'une manière exceptionnelle, on le voit ici, Dieu prend Enoch. Il ne fut plus là. Il ne connaît pas la mort, comme ceux qui l'ont précédé, comme ceux qui vont le suivre. C'est un moment mystérieux dans le texte. Et ça nous permet d'entreapercevoir une lueur d'espoir, une espérance réelle. Dieu est maître sur la mort. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et avec un autre Lémec, cette fois-ci dans la lignée de Seth, à la dixième génération, le père de Noé, il donne un prénom spécifique à son fils. Il appela du nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine de nos mains sur cette terre que l'Éternel a maudite. » Ce mot Noé a un peu le même effet sonore que le mot en hébreu pour « repos ». En quelque sorte, Lémec, le commentaire de Moïse nous l'indique, espère en l'Éternel. Il espère que l'Éternel va faire grâce, peut-être par son fils, par le biais de son fils. On ne pense pas que Lémec aurait pu imaginer de quelle manière l'Éternel allait montrer cette grâce. Et ce mot, la grâce, on le retrouve à la fin de notre passage, au verset 8 du chapitre 6. « Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il sera sauvé de ce juste jugement à venir, en vertu de la grâce de Dieu. » Dieu va anéantir toute l'humanité et il montrera sa grâce. Sa grâce et son jugement vont quasiment toujours de pair. Le peuple d'Israël pour qui Moïse a rédigé ce récit vivait toujours dans un monde sous le jugement de Dieu. Chacun faisait face à la mort personnelle. Ce que le peuple avait vécu avec cet épisode des veaux d'or dans le désert leur témoignait du fait que leur cœur était rebelle, toujours rebelle, et qu'ils étaient incapables de plaire à Dieu par leurs propres efforts. Et donc, je pense que Moïse les invite, en lisant ce passage, à l'humilité, et aussi à une foi réelle, personnelle, en ce Dieu de grâce, en leur disant qu'on peut marcher avec lui, on peut le connaître personnellement, on peut marcher humblement dans l'intimité avec lui. Il n'est pas lointain, certes, il est juste. Il nous a donné la loi, il est saint, il est juste. Mais vous savez, il est un Dieu de miséricorde. Enoch fut pris par Dieu. Il a échappé à la mort. Et des années plus tard, des siècles plus tard, un vrai juste a
allait être pris, ressuscité d'entre les morts. Il allait vaincre la mort. Il a vaincu notre mort, celle que le péché de nos cœurs méritait. Comme on a vu ce matin, Jésus a pris notre châtiment à notre place. Et il nous invite non pas à une longue liste de commandements sous peine de mort. Il nous invite à une relation personnelle avec son Père, avec lui-même, par l'Esprit. Il nous invite à une vie où nous marchons avec Dieu. Notre Père qui est aux cieux, c'est ce qu'il nous a enseigné dans le Notre Père. Ce n'est pas une relation où le mal et notre péché sont minimisés. Il nous a appris à dire aussi que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il nous a donné un cœur qui désire lui plaire, un cœur qui ne vit plus sous la condamnation de Dieu parce que Jésus l'a prise. Mais le pardon est au cœur de cette prière. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et en même temps, Jésus reconnaît qu'on est fragile. On est pécheur. On dépend de lui à chaque instant. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Il reconnaît qu'on a besoin de son aide, de sa protection, par Christ, en Christ, à lui. Dieu nous invite, nous qui vivons aussi dans un monde sous le jugement de Dieu, comme il a invité les Israélites d'alors, à marcher avec lui cette semaine. Par Christ, en Christ, c'est possible. Parce qu'il peut y avoir de l'intimité. Il peut y avoir cette communion, cette paix avec Dieu. On est sur le point de vivre cette révolution technologique, l'intelligence artificielle avec les algorithmes, le transhumanisme. Est-ce qu'on peut être optimiste? Est-ce qu'on peut être pessimiste? Est-ce qu'on doit être pessimiste? Peut-être les deux. Parce que la technologie va bien sûr nous aider ici ou là, peut-être dans pas mal de domaines, mais elle ne changera pas nos cœurs. Puis, par moments, elle va amplifier ce qui est dans nos cœurs. Et en même temps, on peut être optimiste parce qu'on a un Dieu de grâce. On peut marcher avec lui. Et même si on va passer chacun par la vallée de la mort, il nous prendra avec Christ pour être avec lui. Voici comment le psalmiste exprime son espérance. C'est le psaume 73. « Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais transpercé dans les reins, j'étais abruti, je ne savais rien. Devant toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis constamment avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. Ma chair et mon cœur s'épuisent. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. » Et voici l'espérance que Moïse, dans notre passage, nous invite à vivre devant Dieu cette semaine, par Christ, celui qui nous donne la vraie consolation, le vrai repos. Il nous invite aussi à partager cette espérance à qui veut l'entendre, à ce monde qui nous entoure, ce monde qui court à sa perte, comme le monde d'alors. On a un message de vie et d'espoir d'un Dieu personnel qui se plaît à faire grâce, qui veut que chacun marche avec lui. Donc je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, merci pour ce passage. On ne combien plus clair sur les conséquences du péché et la gravité du péché. Et merci aussi pour la lumière qui nous montre que nous pouvons marcher avec toi par la grâce, selon ta grâce. Et Père, nous voulons te louer ce matin pour Jésus, le fils d'Ève, descendant d'Adam et Ève, descendant de Noé, d'Abraham, Jésus-Christ, par qui nous avons ce repos, cette paix avec toi, par qui nous pouvons marcher en intimité, d'une manière intime avec toi. Notre Père, aide-nous à faire ça cette semaine, dans l'humble dépendance, dépendant de lui pour notre pardon, dépendant de lui pour notre protection. Aide-nous à le suivre, à lui faire confiance cette semaine, et donne-nous des occasions de partager cet espoir, cette bonne nouvelle qui te concerne, avec tous ceux qui, en ce moment, courent à leur perte, qui ne te connaissent pas encore, qui vivent tout en jugement, qui vont périr s'ils ne font pas ta connaissance. Et Père, nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.